m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, Julien, avec courtoisie, mais...
Oui, avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers amis, bien sûr, vous êtes sur Radio Courtoisie dans Restons Courtois. Ce soir, nous allons parler de culture, nous allons parler de guerre culturelle, nous allons d'ailleurs parler aussi de paix culturelle. Nous allons parler de la manière dont il y a un écosystème français culturel, avec des pépites, comme on dit aujourd'hui, avec aussi des koh-i-noors, comme le spectacle du Puy du Fou, et des choses un peu plus bizarres, comme Canal+ et Grasset, et surtout donc des maisons d'édition, des maisons de production, qui sont plus ou moins indépendantes, qui sont plus ou moins possédées par des capitalistes. C'est une chose absolument extraordinaire. On a besoin d'argent pour faire marcher les entreprises, et une partie de la classe politique, médiatique et culturelle française a l'air de considérer que c'est très troublant quand il y a quelqu'un qui se réclame de droite, qui a envie de monter un spectacle, de posséder une maison d'édition, voire parfois de ne pas vouloir se faire insulter par ceux à qui il donne de l'argent. Dans cette première partie, nous allons surtout avoir avec nous Nicolas Devilliers. Bonjour monsieur. Vous êtes président du Puy du Fou, et Pascal Ménanier, qui est secrétaire général de la rédaction du Journal du Dimanche, du JDD. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Voilà, vous dirigez l'un des spectacles les plus vus en France. Je crois que vous avez explosé tous les records en 2025. Je ne sais pas comment ça va se passer en 2026, vous avez peut-être déjà une idée.
Écoutez, pour l'instant, la saison est bien lancée. Nous avons, vous savez, une vingtaine de spectacles au Puy du Fou, et non pas un seul spectacle. Mais je vous invite bien sûr à venir le découvrir pour que vous puissiez en prendre toute la mesure. Et le Puy du Fou a en effet accueilli 3 millions de visiteurs en 2025. Et il est probable que cette progression continue, puisque chaque année, c'est 200 à 300 000 visiteurs supplémentaires qui viennent nous voir au Puy du Fou.
Alors, le Puy du Fou, c'est une entreprise absolument magnifique, qui existe depuis des décennies, qui a peu à peu grossi, qui a réussi à développer un écosystème tout à fait intéressant entre le spectacle, le parcours, l'hôtellerie. C'est toute la région qui profite en fait du spectacle. Il y a une vitalité économique qui a été peu à peu bâtie. Et en France, ailleurs, il y a un château, Chambord, qui lui existe depuis aussi, non pas quelques décennies, mais quelques siècles, et qui a l'air d'être un peu à la peine, fissures, poutres fragilisées, lézardes dans les murs, électricité défaillante, problèmes climatiques, et l'État crie misère. Voilà, il y a un chantier de 37 millions d'euros, et l'État, pour le moment, en a péniblement aligné 6. Et vous avez proposé, en fait, de venir en aide à Chambord en envoyant un message assez simple. Notre modèle économique a démontré son succès et nous permettrait de sauver Chambord de la ruine qui menace ce joyau français. Notre main tendue à l'État est celle d'amoureux du patrimoine qui veulent contribuer à éviter de lourdes dépenses publiques pour les remplacer par un modèle privé fondé sur le succès culturel et touristique. Il me semble urgent de cesser de puiser dans les caisses de l'État des ressources trop rares quand il est possible de faire autrement. Le Puy du Fou l'a prouvé. Il est temps que l'État désargenté accepte les mains tendues. Et en fait, vous proposiez à l'État de mettre à son service votre sens de l'ingénierie culturelle. Je rappelle, vous êtes président du Puy du Fou aujourd'hui, mais en fait, vous avez commencé par être un bénévole en représentation. Vous étiez bébé dans les bras de votre mère quand vous étiez déjà sur la scène du Puy du Fou. Et depuis, voilà, vous avez été Puy Follet, vous avez dirigé plusieurs des entreprises qui constituent ce grand spectacle, ce grand parc. Et l'État vous a répondu un peu sèchement. Et d'ailleurs, en disant, ben non, finalement, on n'a pas besoin du Puy du Fou, on a trouvé toute la thune. D'ailleurs, c'était votre premier succès, il a suffi que vous proposiez d'aider l'État pour que l'État trouve l'argent. Comment réagissez-vous à ce refus de l'État de profiter de l'intelligence que vous avez de la chose culturelle et touristique?
Alors, d'abord, il faut remettre les choses dans l'ordre, mais vous avez raison dans la synthèse. En fait, lorsque j'ai proposé au directeur de Chambord, il a accueilli la proposition avec beaucoup d'enthousiasme de cette idée d'installer un modèle tel que le Puy du Fou l'a développé. dans un château, le Puy du Fou, qui est trois fois plus petit, au moins, que Chambord, et qui accueille pourtant trois fois plus de visiteurs que Chambord. Et donc, il était naturel et je dirais un réflexe de bon sens que de proposer à Chambord d'imaginer un modèle je dirais, à l'image du Puy du Fou. Et puis, lorsque le directeur Chambord m'a dit « c'est le ministère de la Culture qui est compétent », j'ai appelé le ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture m'a répondu avec aussi une forme d'enthousiasme, en tout cas le cabinet de la ministre. Hein, je n'ai pas eu la ministre en direct puisqu'elle était visiblement trop occupée pour gérer Chambord et sa ruine. Et donc, j'ai parlé avec le directeur de cabinet qui m'a dit « mais pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais il faut d'abord que je demande l'aval non seulement de ma ministre, la ministre de la Culture, mais également du président de la République ». Alors là, je vous avoue que j'ai été d'abord un peu étonné, et voire stupéfait, d'entendre que cela relevait de l'Élysée. Et puis, quelques jours plus tard,
il a tenu sa promesse. Les fissures, d'une manière générale, ça relève de l'Élysée. C'est peut-être à cause de ça.
Mais écoutez, en tout cas, je ne savais pas que l'Élysée avait suffisamment de menuisiers pour réparer les planchers de Chambord. Mais enfin, toujours est-il que j'attends 10 jours, et puis au bout de 10 jours, le directeur de cabinet tient sa promesse et me rappelle, et me dit, voilà, finalement, mon enthousiasme a été un peu douché, me dit-il, parce que ça ne sera pas possible. Pour la raison suivante, l'élection présidentielle est dans un an, et donc pendant un an, il ne se passera rien en matière de politique culturelle, aucune initiative ne pourra être prise en France. Donc, je vous avoue que j'ai été assez stupéfait d'entendre cette réponse, non pas parce que le Puy du Fou aurait quelque intérêt à développer quoi que ce soit à Chambord. Vous savez, nous, on se développe à l'international, c'est beaucoup plus intéressant pour nous de faire rayonner le Puy du Fou à l'étranger, de faire rayonner d'ailleurs la France à travers notre modèle, que d'aller se lancer dans un projet à Chambord qui serait sans doute très en dessous en termes de dimension de ce que nous pouvons faire dans d'autres pays. Mais pour autant, là encore, vous l'avez souligné, c'est un réflexe d'amoureux du patrimoine. Alors, moi, je suis stupéfait d'entendre que finalement, sur 5 ans de mandat, un président de la République, par exemple, eh bien, se trouve bloqué pour la dernière année de son mandat. Il ne prend aucune initiative. Lui ou son gouvernement ne peut prendre aucune initiative. Et puis après, j'ajoute à cette réponse, moi-même, une réaction. Je dis à mon interlocuteur, écoutez, où allons-nous, où allez-vous trouver les 27 millions nécessaires à la seule rénovation des ailes du château qui sont aujourd'hui fermées au public parce qu'elles s'écroulent, et seulement depuis quelques années. Donc les choses vont très vite en ce moment, la ruine s'accélère. Et la réponse de mon interlocuteur, donc représentant le ministère de la Culture, c'est de me dire « ne vous inquiétez pas, c'est bon, nous allons trouver les crédits ». Je lui dis « d'argent public », il me dit « oui, d'argent public ». Donc ma réaction, et vous conviendrez qu'elle est de bon sens, c'est de dire finalement « si je n'avais pas passé ce coup de téléphone, l'État aurait-il trouvé les 27 millions manquants ?» Et maintenant, on me répond « Non, non, mais après votre coup de téléphone, ne vous inquiétez pas, on va trouver les 27 millions et on va les affecter. » Donc, on puise encore une fois dans la poche du contribuable de l'argent public pour rénover des planchers et des fissures dans les murs d'un château qui est un joyau français, alors même qu'il y aurait une autre voie, et c'est ça que je défends, non pas la seule voie du Puy du Fou, bien sûr, même si moi je propose naturellement mon modèle, mais je crois qu'il y a aussi d'autres modèles possibles que le Puy du Fou. Il ne s'agit pas de répondre oui à ce que le Puy du Fou propose, il s'agit simplement de dire, écoutez, ouvrons la porte à une discussion rapide, efficace, sur le modèle de l'entrepreneuriat privé, dans laquelle on étudierait la possibilité d'un modèle de partenariat public-privé permettant à Chambord, eh bien en fait, de créer une richesse qui soit pérenne, un modèle qui finalement permette d'entretenir le château, de le faire vivre, mais surtout de prolonger sa vie dans le temps et de l'offrir aux générations suivantes. Je crois que c'est notre devoir d'héritier du patrimoine français que de prendre les moyens, de trouver les moyens, de trouver les solutions pour que nous puissions transmettre aux générations suivantes. Voilà, moi, l'esprit de ma démarche. C'est une démarche tout à fait désintéressée. Le Puy du Fou n'a pas besoin de Chambord pour se développer, pour grandir. Ça ne fait absolument pas partie de notre stratégie, j'allais dire, puisque nous nous développons en Espagne, aux Pays-Bas, en Angleterre et dans d'autres pays actuellement. Donc, Chambord est simplement le réflexe d'un lecteur du journal Le Monde que je suis, qui voit dans ce journal Le Monde le 2 avril dernier cet appel au secours du directeur de Chambord.
Alors, une collecte a été lancée, il y a une cagnotte lancée par Chambord qui a réuni à peu près 650 000 euros voilà, et qui d'ailleurs réclame 1 million sur les 37 dont il a besoin. Donc on voit qu'ils ont dimensionné leurs ambitions au rythme des fissures. Et il y a dans votre proposition, je cite l'article du Figaro et l'interview que vous leur avez donnée, vous rappelez en fait qu'il y a 300 millions d'euros de chiffre d'affaires au Puy du Fou. Ça ne signifie pas 300 millions d'euros de bénéfices, mais 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Autrement dit, vous êtes capable de générer effectivement un trafic économique important, voilà, c'est, on est loin de la PME. Il y a aussi dans votre proposition, et je vous cite, si on nous autorisait dans le cadre d'une délégation de services publics à offrir nos services à Chambord, nous serions en mesure de mobiliser une centaine de millions d'euros. Autrement dit, vous seriez capable de mobiliser trois fois plus que ce dont le château a besoin. Et c'est ça que le ministère de la Culture refuse. Vous leur avez envoyé un petit mot un peu sec. Quand sauver Chambord redeviendra votre priorité, vous saurez où nous trouver. Voilà. Donc, c'était un tweet sur le réseau X, anciennement Twitter, du 18 mai. Je suppose que le tweet n'a pas eu de réaction immédiate. Voilà, c'était avant-hier.
Écoutez, n'oubliez pas qu'ils m'ont répondu qu'ils gelaient toute forme d'initiative en matière politique d'ici la présidentielle. Donc, évidemment, ils n'ont pas pu répondre et je pense qu'ils ont gelé aussi leur compte Twitter. Ce qui est certain, c'est que les 100 millions d'euros que j'évoque en effet dans cet entretien avec Le Figaro correspondent à la capacité d'investissement aujourd'hui du Puy du Fou chaque année. C'est-à-dire que nous sommes capables d'investir entre 75 et 100 millions d'euros par an. C'est aujourd'hui la vitesse de croisière de nos investissements. Donc si nous créions un modèle sur le château de Chambord à l'image de ce que nous avons fait au Puy du Fou, nous serions en mesure en effet d'avoir cette capacité d'investissement. C'est-à-dire en fait, quand vous comparez les chiffres des besoins et de la richesse générée, ben vous voyez bien qu'on serait capable de couvrir sans difficulté, main dans la main avec l'État, mais grâce aux recettes seulement touristiques sur le château, l'ensemble des besoins de Chambord et même bien au-delà. Et c'est pour ça que je mentionnais ces chiffres, pour donner un ordre d'idée. Encore une fois, le Puy du Fou est un petit château de la Loire égaré dans les collines vendéennes et nous avons réussi à en tirer un modèle artistique qui a pour corollaire un modèle économique extrêmement dynamique. Nous avons 5000 personnes aujourd'hui qui travaillent grâce au Puy du Fou, 5000 employés du Puy du Fou. Et voyez comme on pourrait faire avec Chambord, j'allais dire des merveilles, parce que c'est là encore l'un des plus grands châteaux français, sans doute avec Versailles et Chenonceau. Et donc je crois que Chambord mérite une véritable ambition artistique et mérite que la pierre reprenne vie, et c'est un peu l'intuition du Puy du Fou, car nous faisons du spectacle vivant, inspiré de l'histoire, comme vous le savez.
Alors, il y a quelque chose d'étonnant, en fait, dans l'idée de tout geler dans la dernière année. C'est que d'une part, on sent bien qu'Emmanuel Macron se dépense sur la scène nationale et internationale pour montrer qu'au contraire, que tout continue, que tout fonctionne à merveille. En tout cas, il le prétend. Dans le JDD, Pascal Ménagnier, vous avez publié des pages qui prouvent que d'un point de vue économique, on peut avoir une vision différente de celle de Roland Lescure du bilan de Macron. Voilà, c'était un article paru très récemment. Et il y a cette idée d'un gel qui est un peu surprenante puisque Emmanuel Macron, par ailleurs, lance avec ce qu'il appelle la méthode Notre-Dame des projets pour accélérer l'initiative privée, faire en sorte de réindustrialiser la France. Et on se dit que par rapport au péril architectural que représente Chambord, ben, cette méthode Notre-Dame, donc, où l'État a décidé d'oublier lui-même les lois qu'il avait votées, les lois qu'il avait sanctifiées en les inscrivant dans le code, voilà, en 4 ans, on a réussi à rebâtir Notre-Dame. Alors, ce n'est pas fini, mais voilà, Notre-Dame est à nouveau ouverte au culte parce qu'on a su aller très vite. Et donc, ce que vous proposiez à Chambord et à l'État, c'est d'aller vous aussi très vite, là aussi, pour sauver un chef-d'œuvre en péril. Donc, autrement dit, on a quand même l'impression que l'élection présidentielle est presque un mauvais prétexte et que ce qu'on reproche au Puy du Fou, c'est peut-être aussi le sens de l'histoire du Puy du Fou. Ce qu'on reproche au Puy du Fou, c'est d'être géré par la famille de Villiers. Autrement dit, on reproche en fait une vision de l'histoire et peut-être l'État a-t-il d'une part peur que vous n'imposiez votre modèle culturel, celui d'un certain roman national, par rapport qui, une fois plus, va des Vikings jusqu'au XXe siècle. Autrement dit, vous embrassez large et au-delà de ce que le roman national embrassait au XIXe. Et on se retrouve là avec en fait une décision de base politique d'une certaine manière.
Alors écoutez, moi je ne peux pas interpréter comme vous le faites, c'est votre rôle de journaliste et donc de commentateur de dire finalement probablement qu'il y a une raison qui n'est pas dite dans cette réponse. Moi je m'en tiens aux faits et les faits c'est que j'ai un cabinet de la ministre plutôt enthousiaste dans le premier coup de téléphone et puis dans le second coup de téléphone de retour finalement attendu par les autorités. On me dit, ah ben finalement, ça n'est pas possible. Et en effet, je souligne avec vous le fait que Le président de la République communique beaucoup hein, sur l'idée de faire, comme pour Notre-Dame, des courts-circuits dans les systèmes classiques administratifs un peu lourds pour pouvoir arriver plus vite à sauver un patrimoine français en péril. Mais en réalité, dans les faits, on voit bien que cette communication, aussi louable soit-elle, n'est probablement pas suivie des faits, puisque sur la seule année qui vient, on m'explique qu'il est impossible de prendre aucune initiative culturelle, alors même que vous imaginez bien que, comme entrepreneur privé, que si nous prenions le dossier à bras-le-corps, en quelques mois, nous serions capables de bâtir un projet, de dessiner une perspective pour le château de Chambord, parce que, j'allais dire, c'est un tel joyau que c'est pour nous une forme d'évidence et que, est-ce que c'est le modèle du Puy du Fou qui, vous avez dit, fait peur, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'angle artistique que nous avons qui peut inquiéter ? Je crois que lorsque on est en train de se noyer et qu'une main se tend, je pense que c'est une erreur de ne pas la saisir au prétexte qu'elle n'est pas la main qu'on attend. Et je crois en plus que lorsque on peut alléger le fardeau de l'État, alors même que les caisses de l'État, nous dit-on en tout cas au plus haut niveau, sont vides, alors même que le déficit semble se creuser, c'est ce qu'en tout cas j'entends comme vous tous les jours, eh bien je trouve qu'il est temps que l'État saisisse les mains qui se tendent, quand bien même ce sont des mains du secteur privé, quand bien même c'est dans le secteur culturel qui parfois revendique la force du public, eh bien je crois que nous pouvons faire de belles choses, de grandes choses, et encore une fois, le Puy du Fou l'a démontré. Et je vous rappelle que le Puy du Fou s'est développé depuis son origine sans aucune subvention publique. Nous n'avons jamais reçu le moindre euro d'argent public. Donc le contribuable n'a jamais payé pour que le Puy du Fou existe depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Et c'est donc exactement ce modèle-là que je propose aussi à Chambord.
Effectivement, un modèle qui ne coûte rien à l'État. On comprend que l'État soit un peu interloqué. Pascal Ménadier, une question pour Nicolas de Villiers ?
Oui, c'est, tout ce qui a été dit... J'y souscris. Je rajouterai peut-être une dimension supplémentaire. C'est la dimension de Paris et la province. On s'aperçoit qu'en réalité, le président de la République a donné beaucoup de moyens pour Notre-Dame, 900 millions. Il a donné beaucoup de moyens pour le Grand Palais, 600 millions. Beaucoup de moyens pour le Louvre, la rénovation du Louvre, 800 millions. Et en réalité, c'est le reste de la France qui n'a pas de moyens. Le patrimoine se dégrade. Ça a été l'objet de plusieurs rapports. Et pour le coup, il y a aussi, à la dimension qu'a évoqué Nicolas de Villiers, une dimension aussi Paris et province. En fait, j'aurais aimé le questionner à propos de ça, de cette dimension Paris-Province. Est-ce qu'elle est importante ? Est-ce que vous la vivez, vous, au quotidien, en réalité ?
Oui, tout à fait. C'est très juste. Vous avez raison de relever ça. D'ailleurs, le Puy du Fou est difficile à appréhender pour Paris parce que nous sommes aujourd'hui dans le top 5 des sites les plus visités en France. Et quand je vous dis le top 5, c'est Disneyland Paris, mais c'est aussi le Louvre, Versailles, la Tour Eiffel. Vous voyez, ces quatre grands sites que je cite sont tous en région parisienne ou dans Paris. Et nous sommes le seul site qui n'est pas dans Paris. Et il y a en effet une vraie difficulté, c'est clair, d'un certain nombre de nos gouvernants à comprendre la province. D'ailleurs, à Paris, je remarque cette logomachie tout à fait étrange pour moi qui suis un homme de la province, qui ai grandi en province. On parle de nous comme des gens des territoires. Oui. Alors ce mot est un mot qui vraiment me fait horreur, je vous le confie, c'est la première fois que je le dis à un média. C'est un mot qui me fait horreur parce que c'est un mot qui dénote cette fameuse distance créée de manière, je dirais, forcée et peut-être d'ailleurs involontaire, inconsciente, par l'élite parisienne, par les gens qui gouvernent la France, mais qui en réalité se promènent d'un arrondissement à un autre. J'ai, par mon métier, la chance d'être à la fois à Paris et en province, d'être très souvent donc dans notre capitale. Et je vois bien que l'élite à laquelle on parle, les dirigeants auxquels on parle, les ministères à qui on a affaire, sont constitués de gens, et les politiques, mais parfois les hauts fonctionnaires aussi, qui finalement ne déambulent que dans quelques kilomètres carrés, et même moins, et qui n'ont aucunement conscience qu'on a en province des besoins qui sont tout à fait différents, à commencer d'ailleurs par exemple, la voiture est nécessaire pour venir au Puy du Fou, comme pour visiter les châteaux de la Loire, parce que le train ne peut pas desservir, et encore moins le métro, l'ensemble des lieux les plus emblématiques de notre beau pays de France. Et il y a comme ça une sorte de déconnexion à la fois politique, culturelle, qui est très juste. Et on le sent vraiment parce que il y a une forme de désintérêt, de méfiance, d'angoisse même parfois, hein, disons les choses, et je leur en veux même pas, mais il y a une forme d'angoisse quand on se présente dans les ministères parce qu'on arrive de province et tout à coup, on a l'impression que les experts qui nous font face doivent s'adapter comme s'ils devaient changer de langue pour parler aux gens des territoires, l'expression que je mets entre guillemets car elle n'est pas de moi et c'est une expression que je réfute particulièrement. J'aime le mot de province et je trouve un peu déplorable et même très dommageable pour la France que Paris parfois s'enferme un peu sur lui-même, c'est très vrai. Il y a heureusement, ne faisons pas de cela une généralité, il y a heureusement des gens à Paris qui ont parfaitement des racines en province et qui connaissent très bien la province. Mais c'est vrai qu'il y a, vous avez raison, cette tendance. Et donc la culture, lorsqu'elle vient de province, elle est parfois un peu suspecte parce qu'elle est populaire et qu'elle n'est pas élitiste. Vous savez, la force du Puy du Fou, c'est que nous avons inventé un modèle qui est difficile à comprendre, peut-être dans certaines sphères culturelles, qui est le modèle du haut de gamme populaire. Et précisément, nous réconcilions deux idées. L'idée qu'on peut accueillir un large public, un public qui a peu de moyens, un public qui ne va pas dans les théâtres, un public qui est le grand public français, qui vient de toutes les provinces françaises, y compris de Paris d'ailleurs, hein, très nombreux aussi au Puy du Fou, ce public parisien. Et on peut proposer à ce public très large, à ce public très familial, à ce public qui a peu de moyens, du haut de gamme, c'est-à-dire des spectacles de qualité mondiale. Et on doit pouvoir les proposer à un prix qui permet à ces familles qui ont finalement peu de moyens eh bien, d'avoir accès à cette culture d'excellence qui doit faire honneur à la France, en France, mais bien sûr aussi dans le monde. Et c'est ça le modèle que le Puy du Fou défend, et c'est celui-là même que nous développons partout, en notre nom propre, mais aussi un peu, comme tout fleuron français, au nom de la France.
Cher Nicolas de Villiers, lorsqu'on a entendu cette histoire, on présupposait ou on s'imaginait une sorte de don ou de subvention du Puy du Fou au domaine de Chambord de 10 millions qui aurait été refusé. En lisant l'article, en vous écoutant, les choses sont suivies de loin parfois, vous nous parlez d'un projet plus ambitieux. Vous nous parlez de copier l'événementiel finalement ou d'adapter l'événementiel à l'histoire spécifique et au domaine de Chambord. Ce faisant, vous donnez un peu l'eau à la bouche aux auditeurs sans doute, qui s'imagineraient peut-être un spectacle son et lumière au domaine de Chambord. Est-ce que vous aviez quelque chose à l'idée d'un peu plus précis? Justement, voir revivre François Ier lors d'une grande chasse ou quelque chose comme ça.
Ah, écoutez, vous me demandez déjà d'écrire devant vous un scénario de spectacle et je m'en garderai. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Chambord est immédiatement inspirant. C'est un lieu qui, je vous le disais, est l'un des plus beaux châteaux français et par conséquent, les personnages qui l'ont traversé, qui en sont d'ailleurs un peu la signature, à commencer par François Ier, bien sûr, mais on sait aussi que Léonard de Vinci a peut-être apporté sa contribution. Tout ça doit être fait avec prudence, dit avec prudence, parce que les historiens veillent et ils ont raison. Mais en effet, je crois que Chambord peut être facilement mis en scène sous différentes formes que je ne vais pas développer ici à votre micro, mais je crois en effet qu'il y a plusieurs formes de spectacles à créer à Chambord, à la fois dans le château même, dans l'enceinte du château, mais aussi dans les alentours. Vous savez que Chambord, c'est aussi une propriété de plusieurs centaines d'hectares et qui est remarquablement gérée d'ailleurs, et donc qui mérite en effet, pourquoi pas, eh bien, de déployer tout un modèle à la façon du Puy du Fou qui se déploie sur 150 hectares avec une vingtaine de spectacles, je vous le disais, destinés à tous les publics et qui permettent, ces spectacles, eh bien, de goûter l'histoire d'un lieu. Vous savez que nous avons inventé un modèle qui est le modèle du spectacle inspiré, enraciné dans une histoire. Et donc oui, Chambord est très inspirant et nous aurions pu y faire de grandes choses, c'est certain. Mais nous verrons, peut-être justement, que l'avenir nous permettra, nous ouvrira de nouvelles portes.
Justement, ce serait peut-être la seule réserve, ou pas forcément la réserve, mais la seule question qui pourrait soulever d'ailleurs ce beau projet. Un spectacle enraciné dans une histoire, dans un lieu. Le Puy du Fou et le succès économique du Puy du Fou doivent aussi à cette belle culture du bénévolat qui est celle finalement de l'ouest de la France, enracinée dans le catholicisme et donc dans l'engagement associatif. On a des gens qui donnent de leur temps, parce qu'on donne simplement dans l'église, et qui donnent notamment comme Puy Follet ou comme volontaire, comme bénévole, etc. Et cela aide et cela apporte beaucoup au Puy du Fou. Puisqu'on sait que la plupart des parcs à thème en France sont déficitaires, à l'exception du Puy du Fou. Est-ce que ce modèle est superposable hors du contexte vendéen, où on a effectivement des gens qui s'engagent, qui parfois donnent de leur temps, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs en France. Vous parlez du modèle Puy du Fou qui peut s'exporter partout ailleurs. Est-ce que d'autres petites Vendées sont envisageables en France pour faire naître d'autres Puy du Fou ou spectacles historiques de ce type?
Alors oui, je le crois. Je crois que le bénévolat est possible ailleurs en France. Mais pour vous répondre de manière précise, ça n'est pas le bénévolat qui fait vivre le Puy du Fou. Aujourd'hui, le bénévolat est contenu dans une association. L'association du Puy du Fou, c'est la maison mère. C'est notre joyau à nous, parce que c'est là que la charge morale, je dirais, réside pour le Puy du Fou. Mais pour autant, dans le modèle économique du Puy du Fou, ça n'a plus aujourd'hui de poids économique. C'est-à-dire que l'association du Puy du Fou, c'est 2 à 3 % du chiffre d'affaires du groupe, du grand Puy du Fou, vous voyez, avec l'ensemble de nos activités. Donc, ce sont les 5 000 talents salariés qui constituent l'immense majorité du chiffre d'affaires. Je me permets de faire cette petite précision parce que on aurait tendance à penser parfois, et je l'entends tout à fait dans la sphère médiatique, que le Puy du Fou ne pourrait pas vivre sans ses bénévoles. En fait, notre grande force, c'est pourquoi nous conservons le principe du bénévolat à la tête du Puy du Fou, alors même que nous pourrions économiquement nous en passer très largement. Eh bien, précisément parce que nous voulons garder dans la force du bénévolat, la force de la bonne volonté, une force et un état d'esprit, un esprit qui irrigue l'ensemble des tissus de l'entreprise par un effet de reflet et d'admiration mutuelle. Nos talents savent que leur actionnaire n'est pas un fonds d'investissement, ça n'est pas la caisse des dépôts et consignations, comme ça peut être le cas d'autres sites de loisirs, ça n'est pas non plus un état étranger, mais c'est une association dans laquelle l'ensemble des sociétaires, comme on dit dans une association, c'est-à-dire des membres bénévoles de l'association, sont parfaitement bénévoles et personne ne tire de dividendes, y compris votre serviteur, à titre personnel, des bénéfices gérés par le Puy du Fou. Donc vous voyez, comme le bénévolat est pour nous simplement une force symbolique, mais extrêmement importante, sans laquelle, je pense, le Puy du Fou perdrait son âme. En revanche, il ne perdrait pas son modèle économique. Alors ensuite, c'est vrai que vous posiez la question de savoir si dans d'autres régions de France, il serait possible ou non de créer des associations sur le modèle du bénévolat. La réponse est oui, bien entendu. Ça n'est pas l'apanage de la Vendée qui a en effet un état d'esprit très particulier dont nous sommes très fiers. Et si je vous me lançais sur la Vendée, je vais vous parler des heures avec peut-être une forme de chauvinisme assumé parce que je suis, comme beaucoup de Vendéens, très fier d'être Vendéen, mais pour des raisons qui tiennent à une forme de dynamisme et d'identité très marquée en Vendée, très particulière. Mais en effet, je crois pour autant que le bénévolat s'applique dès lors qu'il y a un projet clair, une œuvre qu'on place au-dessus de soi et qui emmène une communauté humaine dans une direction très claire qui permet à tous de se hisser, de s'exaucer, vous voyez, du quotidien et finalement d'avoir le sentiment d'être utile à une œuvre collective qui fait du bien aux gens par le beau. Et c'est ça, finalement, la force du Puy du Fou depuis l'origine. Et sans le bénévolat, le Puy du Fou n'aurait pas pu naître. Mais aujourd'hui, en effet, nous avons, grâce au bénévolat de l'origine et que nous avons conservé, vous l'avez compris, créé un modèle économique complet qui donne du travail aux gens. Et finalement, pour reprendre la métaphore qu'on pourrait prendre avec Chambord, moi, je ne viens pas à Chambord donner dans la main qui se tend une obole passagère qui consisterait à faire un don, parce que ça n'est pas ça l'enjeu, je crois. L'enjeu, il est à plus long terme de sauver Chambord, non pas seulement pour une fois, mais pour les années qui viennent. Moi, je viens proposer un emploi, si l'on peut dire, voyez, à Chambord, à travers un modèle économique pérenne qui, encore une fois, permettrait de sauver pour longtemps le château de Chambord.
Nicolas Gillier, merci beaucoup. On arrive au bout de la demi-heure que vous m'aviez promise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous
merci
pour défendre ce modèle culturel. On espère que Pierre Dubreuil, qui a courageusement refusé un spectacle proposé par Patrick Boucheron, donc autrement dit, voilà, Pierre Dubreuil n'est pas prisonnier de l'idéologie qui a présidé à la cérémonie des Jeux Olympiques. Et au contraire, il le dit, l'histoire de Chambord doit être racontée comme un récit, non pas comme un roman. Donc, en tout cas, pas le roman de Patrick Boucheron qui invente lui aussi une France un peu spécial. Espérons que ce modèle du Puy du Fou, vertueux, d'un point de vue économique, culturel, associatif, territorial, vous me pardonnerez de réemployer provincial, aurais-je dû dire, va pouvoir faire florès, sinon à Chambord, du moins ailleurs. L'État, grâce à Dieu, a été suffisamment imprévoyant et impécunieux pour qu'il y ait beaucoup de chefs-d'œuvre en péril et peut-être que d'autres, passés cette dernière année tragique, seront intéressés par votre proposition. À très bientôt.
Merci infiniment.
Nous avons, et c'est le moment d'en parler, puisque Nicolas de Villiers le disait, c'est un modèle vertueux, c'est un modèle qui ne doit rien à l'État, c'est un modèle qui n'a pas reçu un seul sou de subvention. Eh bien, évidemment, Radio Courtoisie aussi est un modèle vertueux, est un modèle qui ne doit rien à l'État, est un modèle qui n'a jamais reçu aucune subvention et qui vit grâce à vous, les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes 1,5 million à nous écouter chaque semaine, tous canaux confondus, sur les ondes hertziennes, pas à travers le site internet, sur les chaînes YouTube et les directs sur X, etc., comme en ce moment, eh bien, n'hésitez pas, vous n'êtes seulement quelques milliers, donc il y a une grosse distance entre il y a un peu plus de 2%, même pas, des auditeurs qui nous écoutent, qui nous donnent. Ben, si jamais vous avez envie de donner, donnez un peu plus, donnez à soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr, 1 euro, 2 euros, 5 euros, tout fait ventre, et voilà, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, nous saurons en tirer parti. C'est le moment de me retourner vers Pascal Ménédeille. Là, quand on parle de 1 euro, 2 euros, 5 euros, on est un peu loin de la manière dont le monsieur Nora jetait l'argent par les fenêtres. Vous avez sauté sur cette affaire Grasset, comme la Légion a sauté sur Colvézi, en procurant plusieurs articles remarquables où vous revenez sur cette tempête dans un verre d'eau et qui n'intéresse sans doute que le petit milieu germano-pratin, mais qui est devenu une espèce d'emblème incroyable de la violence psychologique supportée par les auteurs de Grasset, qui ont découvert avec horreur au moment de l'éviction d'Olivier Nora qu'ils étaient possédés par Bolloré, ce qui n'était pas nouveau. Ils étaient possédés par Bolloré un mois, deux mois, six mois, un an avant l'éviction de...
Trois ans.
Avant l'éviction de Pierre Nora, d'Olivier Nora, pardon. Et peu à peu, évidemment, on a présenté ça comme une espèce de fée du prince, alors que le seul prince, c'était véritablement Olivier Nora, qui dirigeait une entreprise très mal, en étant payé horriblement cher, en étant payé en partie d'ailleurs, en faisant supporter les coûts de sa maison par le groupe Hachette, et qui donnait des avaloirs, mais dément à des auteurs qui ne vendent pas. Et vous en citez deux, notamment, une espèce de caricature de Doc Gynéco, qui publie des bouquins pour enfants vendus à entre 200 et 400 exemplaires. Et,
Julien Delmer.
Voilà, merci.
Alors, Julien Delmer n'a pas reçu d'avaloir, selon mes informations, considérable. C'est disons que Julien Delmer a surtout bénéficié de quelque chose d'assez incroyable, c'est que vendant ses ouvrages à 200 exemplaires, il a bénéficié...
Donc 200 exemplaires, on est d'accord, l'éditeur perd de l'argent à chaque ouvrage Delmer publié.
Exactement. A bénéficié d'une sortie en livre de poche, sous coffret en réalité. Et donc, il y a là, en fait, des stratégies... éditoriales de la part de... Donc d'Olivier Nora, qui sont assez de l'extérieur, qui sont assez incompréhensibles. En fait,
parce que généralement, on ne publie en coffret que les séries à succès,
voilà,
pour inciter ceux qui à acheter d'un coup la collection.
Sauf si on sait que effectivement Julien Delmer est très ami avec Virginie Despentes, qui est elle.
L'une des vaches à lait de Grasset.
Voilà, exactement. Mais au-delà de ça, en réalité, des avaloirs, de la façon dispendieuse, effectivement, de la gestion en fait, d'Olivier Nora. Olivier Nora n'a pas inventé cette méthode. Il faut savoir que c'est une méthode qui date en fait, de Jean-Claude Fasquelle. Et donc, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que cette méthode s'inscrit dans le temps long en réalité, et elle s'inscrit à partir des années 70 et elle vient de s'arrêter en réalité. Olivier Nora n'est qu'un héritier de cette méthode là qu'il a essayé de faire perdurer, sauf que les ventes ne suivent pas, voilà, ne suivent plus.
Oui, parce que
Jean-Claude
quand même...
Fascal, lui, avec son bras armé, Yves Berger, qui était une sorte de méridional absolument fantasque, délicieux, pouvait distribuer pour le coup à valoir un peu à tout le monde, mais au moins les livres que Grasset éditait à l'époque en tout cas, trouver leur public.
Et c'est peut-être le temps de dire juste un mot technique, c'est-à-dire un auteur signe un contrat avec son éditeur, dans ce contrat on lui promet un pourcentage du prix de vente de l'ouvrage, et l'éditeur, bon prince ou confiant, donne une somme à valoir sur ce que les droits d'auteur sont censés rapporter. Autrement dit, voilà, je suis persuadé que votre bouquin va se vendre comme des petits pains. Voici 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros et allons-y, 174 000 euros. Vous citez des chiffres, évidemment. Moi qui publie des bouquins avec de maigres avaloirs et des ventes correctes, je bavais en lisant votre article. Il y a un moment donné où vous parlez de Bec BD qui a cumulé 1 million de pertes sur l'ensemble de ses bouquins, par exemple. Et donc, aucun avaloir ne sera jamais remboursé par les ventes cumulées de Bec BD.
Parce que Bec BD a une autre fonction, en réalité. Il a une autre fonction que celle d'auteur. Il a une fonction d'influenceur. Et donc, voilà tout le jeu fasquélien, repris par Olivier Norin, parce que tel est au prix Renaudot, tel a une émission littéraire, tel a une chronique dans un hebdomadaire bien connu, tel, etc., etc., tout simplement. Et c'est ça, en réalité, qui vient d'exploser. En réalité, la divulgation par Vincent Bolloré du salaire de Olivier Norin,
plus d'un million d'euros,
voilà, vient de déchirer le très léger voile qui cachait un petit peu tout ça, et donc on est dans ce moment-là où le roi est nu en réalité, et donc il va falloir à la fois réinventer d'autres relations avec les éditeurs, d'autres façons de publier, d'autres auteurs. C'est ce que promet Vincent Bolloré dans sa missive. C'est-à-dire que si les auteurs partent, eh bien, d'autres viendront.
Et qu'on pourra payer, entre guillemets, au juste prix, c'est-à-dire en train de leur donner un salaire, non pas pour ce qu'ils écrivent, mais effectivement pour l'influence qu'ils peuvent avoir. Il y a l'idée quand même d'une espèce de pyramide de Ponzi, parce qu'on demande à un auteur qui ne vend pas d'être le porte-drapeau d'une maison en faillite, dans des cénacles littéraires qui eux-mêmes servent à régulièrement, une fois par an ou deux, à faire des coups littéraires, et donc les ventes du Renaudot ou les ventes du Goncourt étant l'ultime machine qui permet de faire vivre tout le système.
En fait, le système reposait sur les prix. Et le système repose toujours sur les prix. Et c'est ce qui est profondément malsain, en réalité. Toute l'enquête, tout ce que j'ai pu écrire, enfin tout ce que j'ai pu recueillir comme information, concourt, va dans ce sens-là. Ce qui fait que il peut y avoir des auteurs, des académiciens qui sont, et j'en ai, il y en a un certain nombre qui se sont confiés, des académiciens qui sont alors même que ce sont de bons auteurs, de bons écrivains, sont mis de côté parce que ils n'ont pas de surface médiatique. Et c'est pourquoi je parlais de pourquoi je parlais de Frédéric Becbédé. C'est parce qu'il s'est attaqué à l'ENA situation. Vous vous souvenez, une chronique assez méchante sur cette influenceuse qui sort régulièrement des livres. En réalité, en s'attaquant à elle d'une manière vraiment assez méchante, et certainement, et à juste titre d'ailleurs, il faisait un autoportrait. Et c'est ce que les gens n'ont pas vu. En fait, il faisait un autoportrait lui-même et subventionné dans son se fait subventionner.
Donc la situation influenceuse mode, donc effectivement, qui gagne sa vie en portant des robes et en se montrant dans des soirées où elle est invitée parce que on sait qu'elle va porter des robes qui sont chics ou qui passent pour telle, etc.
Exactement. Mais lui-même le fait. Et donc c'était. Cette chronique m'a en fait ouvert les yeux sur son rôle et le rôle d'un certain nombre de personnes. Qu'est-ce que c'est Simon Liberati? C'est ça aussi. Qu'est-ce que c'est Jean-Noël Orengo? C'est ça aussi. C'est la raison pour laquelle ces gens-là ont effectivement des avaloirs. Pourquoi? Des avaloirs conséquents, alors même que leurs
livres ne rencontrent pas
de public. Ils rencontrent, il ne faut pas exagérer, ils rencontrent du public. Frédéric Becbédé a beaucoup vendu dans les années 2000, beaucoup moins aujourd'hui.
Et Simon Liberati nous a fait l'honneur de sa présence au Libre Journal de Littérature sur Radio Courtoisie.
Alors, donc Simon Liberati est quelqu'un d'exceptionnel, mais lui aussi, non seulement outre le goût délicat dont il fait preuve en allant chez vous, Lucien Rabouille, malgré tout, quand on voit les chiffres avancés par Pascal Ménadier, donc les chiffres vérifiés, avancés par Pascal Ménadier dans ses articles du JDD, payé largement au-delà de ce qu'aucun éditeur
n'est pas toujours
pourra espérer.
Le talon de mesure.
Oui, du talent.
Vous avez du talent et il y a des œuvres qui se construisent sur un temps assez long.
Tout à fait.
Avec des
raison.
Débuts laborieux, etc. Ouais. Donc il peut derrière y avoir une logique esthétique, etc.
C'est la raison pour laquelle, sur le salaire qui semble être. Qui a choqué beaucoup de gens, le salaire d'Olivier Nora, de plus d'un million d'euros par an, en réalité, c'est un salaire qui a une fonction symbolique. En réalité, Grasset est représenté dans le monde de la culture. Quelque chose qui était énorme, qui avait une haute fonction symbolique. Et en réalité, son salaire n'est que l'expression de cette haute valeur symbolique qui, aujourd'hui, vient d'exploser. Voilà.
Valeur symbolique, la distinction entre la valeur et le prix, c'est quelque chose qu'on a tendance à ignorer aujourd'hui. Effectivement, le prix d'Olivier Nora valait-il sa valeur sociale? En tout cas, on voit à quel point tout se marchandise, y compris effectivement un carnet d'adresse, y compris un nom, y compris une appartenance à une aristocratie intellectuelle parisienne. En vous écoutant et en vous lisant, Pascal Ménadier, quelque chose nous vient quand même à l'esprit. On pensait peut-être naïvement que écrivain, c'était écrire des livres, que poète, c'était composer des recueils de poésie, que romancier, c'était proposer des romans. Et là, on voit des écrivains sans livres, ou alors avec un demi-livre, qui parfois d'ailleurs, on le sait, peuvent être écrits par une armée de petits plumitifs ou de petites mains qui permettent aux uns et aux autres d'aller à l'opéra ou à la télévision pendant ce que quelques étudiants ou éditeurs ou autres recomposent un brouillon et un texte souvent affligeant et lamentable, ou en tout cas le rendent lisible. Écrivain, cela semble être devenu plus ou moins un statut social notamment médiatisé, qui permet effectivement d'avoir une visibilité. Est-il abusif de dire qu'avec cette affaire Grasset, il n'y a pas la révélation d'une grande caisse des lettres en France, qui fonctionne autour de la subvention publique, d'un milieu protégé, le prix unique du livre, qui permet une organisation corporatiste, finalement, du livre, comme toute économie protégée. Mmh. Et qui dit corporatiste, et peut-être le mot est d'ailleurs un peu fort, d'une certaine manière, mafieuse. En tout cas, un univers de la complaisance, de la cooptation, très opaque, qui s'abrite derrière le côté toujours cryptique du talent littéraire. Quiconque n'aime pas un livre peut manquer de goût. Alors, quelque chose qui est institué par la critique, qui osera dire qu'il trouve ça quand même assez rasoir et affligeant, au risque justement de se voir reprocher un manque de goût.
Enfin, bref. Et de ne pas être invité dans les soirées où Simon Liberati se rend. Pascal Ménadier, que pensez-vous de cette description mafieuse?
Elle existe depuis Balzac. Donc, Balzac, notre maître à tous, l'a parfaitement décrite, mais pas simplement. Il suffit de lire Bellamy, il suffit de lire... je crois que c'est inhérent à la société des lettres, sauf que s'ajoute à cela ce que les années 80, en fait, en réalité, ont inventé, c'est le moralisme. C'est que c'est une couche supplémentaire. C'est-à-dire que il y a eu effectivement je n'ai pas été le premier à dénoncer, dévoiler ce genre de pratique. Je vous rappelle que Jacques Brenner, dans les années 2000, c'était il n'y a pas très, vraiment pas très longtemps.
C'est quand Beck BD avait du talent.
Certes.
Et alors, Jacques Brenner?
Jacques Brenner, qui était un auteur grassé d'ailleurs, a sorti ses livres, enfin ses journaux intimes, dévoilant son rôle au Renaudot et dévoilant toutes ses à la fois compromissions, relais. Ça a fait grand bruit à l'époque. Ça fait grand bruit à l'époque pendant 6 mois. Jacques Brenner a quitté le Renaudot. D'autres l'ont remplacé et le système a continué. Je suis assez, un peu sceptique sur la suite des événements en réalité.
Alors, dans cette affaire Grasset, donc, qui soubresaute, parce que voilà, il y a d'abord eu la révélation du salaire de Nora, ensuite cette pétition expliquant on s'en va, Bolloré c'est devenu irrespirable, on avait l'impression en fait que c'était les courtisans qui se ruaient autour du roi déchu en espérant qu'il allait trouver un royaume juste à côté, qu'il était chassé, mais qu'évidemment il allait être accueilli comme un dieu déchu de l'Olympe qui s'installe au milieu des hommes et qui fait pleuvoir le lait, le miel de sa gentillesse et en même temps de sa richesse sur les humains. Et au bout de quelques semaines, on en parle aux éditeurs qui disent « Vu la gueule des Avalois, il y a quand même peu de chance que je le prenne chez moi. Ou de toute façon, j'ai déjà ma star maison, pas question que je prenne Virginie Despentes. Elle risque de se disputer avec l'autre. » On sent une certaine fragilité. On sent qu'une partie de ces auteurs, en fait, d'une part, sont restés chez Grasset, se sont bien gardés de dire qu'ils allaient partir. Mais ils ont déclenché une espèce de réaction en chaîne un peu mimétique dans le milieu culturel. Et voilà que Canal+ a décidé, certains ont décidé que puisque Grasset avait été brusquement mise, c'est-à-dire depuis 3 ans, hein, personne ne s'en était rendu compte, ça faisait 3 ans que Bolloré possédait Grasset, que puisque Grasset était devenu une maison infréquentable, peut-être que le reste des entreprises culturelles que possède Bolloré allaient être elles aussi souillées. Et donc une pétition débarque en expliquant que Bolloré tente d'imposer un imaginaire fasciste, fin de citation, dans le cinéma et la télévision. Et 600 personnes disent, eh ben là, il est hors de question qu'on laisse faire. Et là aussi, la maison Bolloré, à travers ses directeurs, réagit d'une façon intelligente, enfin, à ma courte vue, de dire, après tout, si vous voulez pas de mon blé, ne le prenez pas. Parce que là, pour le moment, vous dites que vous ne voulez pas de moi, mais en fait, très tranquillement, vous prenez un argent. Ça fait très longtemps que Bolloré possède Canal+, par rapport à Grasset, et ça fait très longtemps que les gens expliquent à quel point Bolloré est méchant et que Canal+ continue à subventionner tout un tas de films de gauche, crétins, qui ne font pas d'entrée, mais voilà, parce que c'est contractuel. On est en train de renégocier la chronologie des médias, on est en train de renégocier la participation de Canal+ au financement du cinéma français. C'est le mauvais moment pour sortir la pétition, et Saada explique, les 600 qui signent contre moi en expliquant que Canal+ c'est des fachos, eh bien je ne veux pas travailler avec eux. Et là, la gauche est stupéfaite, dire comment ça vous ne voulez pas travailler avec moi, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent privé qui vous appartient que vous n'êtes pas tenu moralement de le donner à qui le demande.
Il faut faire attention avec l'effet de sidérant des chiffres. 600 personnes qui signent, à bien y regarder, c'est finalement pas grand-chose. En réalité, si on enlève les professionnels de la pétition du cinéma, les professionnels de la pétition, le nombre de pétitionnaires se compte, sont assez restreints en réalité. Je fais un parallèle avec Grasset. En réalité, dans les faits et selon mes comptages, sur les 637 auteurs qui ont publié 828 livres chez Grasset entre 2021 et 2026, 429 ne se sont tout simplement pas manifestés. En réalité, on a, je veux dire, il y a autant André McKean que Yann Moix, que Marc Lambron, que Daniel Rondeau, Frédéric Vitoux, Grégoire Delacour, Adrien Goetz.
Autrement dit, ceux qui vendent.
Non, c'est pas ceux qui vendent et ceux qui se vendent pas. Ça serait trop simple
enfin,
de dire
ceux,
ça.
Ceux qui ont une réputation et ceux qui sont de bons auteurs, André McKean, Adrien
oui.
Goetz, voilà.
Oui, mais Serge Chalandon, on pouvait, faut pas. Je pense qu'il faut pas caricaturer, mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, il y a deux tiers des auteurs Grasset qui ne se sont pas manifestés et un tiers qui se sont manifestés. Je pense que dans le monde du cinéma, c'est un petit peu les mêmes tendances.
Cher Pascal Ménadier, pour certains d'entre eux, en tout cas des échanges qu'on peut avoir avec eux, je ne nommerai pas, certains des contrats courent en fait jusqu'à la rentrée. Donc,
plus même, voilà. Jusqu'en 2027. Enfin, donc, même, oui.
Certains sont dans une situation intermédiaire, d'hésitation, d'embarras aussi par rapport à l'ampleur qu'a pris cette polémique. Et ces 400 qui restent, justement, cachent parfois des logiques contractuelles ou alors une volonté de se taire. Et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose des signataires.
Bah exactement.
Est-ce qu'il y a parmi les signataires uniquement l'éthique de conviction ? Est-ce que certains n'ont simplement pas cédé à la pression ou n'ont pas craint pour leur réputation professionnelle ?
Oui, vous avez raison. Mais certains aussi ont signé sans lire. Un oui. peu comme Jean-Pascal Zadi, pour la pétition à propos de Canal+.
Parce qu'ils étaient habitués à Nora.
Zadi, dont les films sont financés.
Pas du tout, c'est parce qu'on leur a demandé de signer, ils ont signé. Ils n'ont pas réfléchi, bon, oui, si tu veux, etc.
Corporate.
Parce que c'est un ami qui lui propose, etc. Il y a le cas d'une grande éditrice parisienne, que je ne peux pas citer, qui a signé, qui le dit, sans lire la pétition Grasset. Ou le cas de plusieurs auteurs qui, effectivement, et là vous avez raison, ont signé alors qu'ils n'étaient pas d'accord avec le texte, mais parce que par fidélité à leur éditeur, qui ont signé, mais qui...
Fidélité à Nora.
À Nora, oui, bien sûr. Mais qui n'envisagent à aucun moment de partir pour la rentrée 2027, 26 et 2027. Donc, vous avez raison de dire que tout ça, on est en fait dans un... Comme d'habitude en France, c'est un grand théâtre. qui agite de la politique alors qu'il y a beaucoup d'enjeux et de pouvoirs et de...
Alors pour retenir quand même quelque chose de rassurant finalement ou de réconfortant de cette affaire, de cette polémique qui par bien des aspects est assez lamentable, on se souvient de la querelle Barthes-Picard qui en 63 ou 64 avait fait la une du Monde. Querelle littéraire sur l'interprétation de la littérature, sur les écoles critiques, sur le travail de la Sorbonne, autour du concept d'histoire littéraire et de structuralisme. Et ça rend un peu nostalgique de voir qu'une critique ou une querelle littéraire pouvait faire la une du Monde.
Bah, et là, finalement... Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, en fait, ce genre de... Ça a toujours existé. Le dévoilement des Tartuffes, c'est aussi vieux que Molière. Donc, je veux dire, c'est... quand je parlais de Jacques Brenner... j'aurais pu encore quand Jacques Brenner a écrit la même chose que moi mais il y a 20 ans j'espère que il y a un grand auteur Grasset, un très grand auteur Grasset qui a tenu son journal et mon vœu le plus cher est qu'il soit édité assez rapidement parce que lui aussi est beaucoup mieux que moi encore, dévoile tous les intéressés. La vie.
Vous lâchez le nom, Pascal ?
Non.
je vous rejoins tout à fait.
Parce que c'est vraiment depuis.
Il y a un dévoilement.
Balzac.
Évidemment.
Depuis Balzac, c'est comme ça.
On pourrait faire la généalogie de ces affaires et probablement on trouverait des similitudes. Ce que je voulais dire, c'est alors dans le temps, vous avez raison. Mais dans la géographie, est-ce que une affaire qui touche une maison d'édition, un milieu d'écrivains, comme vous l'avez dit, Germano Pratin, avec un verre de blanc à la main. Est-ce que c'est imaginable ailleurs qu'en France?
Non, c'est formidable que ce soit en France.
Voilà.
Voilà.
On n'aurait pas l'équivalent en Allemagne.
Oui, exactement.
Ce serait une affaire Volkswagen de plus, le piège industriel, pour un mixeur Moulinex, ou je ne sais quoi. Donc finalement, est-ce que c'est ce qui a retenu dans cette affaire? Il y a encore une République des lettres, alors un peu vieillissante, un peu rentière, faute de talent.
Rentière, mais c'est... qui n'attend que, enfin qui doit être renversé et puis parce que c'est la vie quoi. Enfin voilà, ces gens-là ont fait très largement leur temps quoi.
C'est la fin d'un cycle finalement.
Ouais, exactement.
Ce cycle dont vous avez dit qu'il était ouvert des années 80. Mm-hmm. Frédéric Becbédé, un cycle d'ailleurs qui a eu ses gloires. Oui. Je veux dire, on imagine Frédéric Becbédé avec Édouard Baird au Palace, une bouteille de vin blanc à la main, en train de parler du dernier film porno et en même temps de telle dernière création littéraire. C'était Bernard Pivot, c'était Thierry Ardisson qui arrivait à réunir un académicien et une mannequin sur le même plateau. Enfin, c'était toute cette atmosphère-là qui depuis, effectivement, a bien vieilli, qui depuis s'est durci, s'est moralisé et qui finalement, c'est merci, au revoir. Quoi.
C'est pas une question de morale, c'est qu'effectivement, une fois que l'argent s'assèche, en fait, tout le cirque que cet argent permettait et qui soutenait les ventes, si on ne peut plus nourrir la machine, et si les prix ne suffisent plus, il n'y a aucune raison que ça continue. Dans le cas de Canal+, c'est la même chose. Canal+, a diminué son financement du cinéma français parce que les gens regardent moins, autrement dit parce que les recettes ne sont pas les mêmes. Parce que, ils vont ailleurs. On propose d'acheter, Bolloré propose d'acheter UGC. Autrement dit, il y a une concentration du secteur, comme partout ailleurs, comme dans toutes les industries. Et là aussi, les Français disent, une partie des artistes français, des techniciens, etc., disent il faut absolument qu'on continue à être subventionné parce qu'on sait bien que, en fait, les trois quarts de l'argent du cinéma viennent de la taxe sur tel billet, de la taxe sur tel type de contrat. Je vais pas refaire l'économie du cinéma. Et là, c'est la même chose. On se retrouve, en fait, avec un système à bout de souffle qui refuse de croire que on peut continuer à danser alors que le Titanic coule.
Si vous me laissez poser la question de la fin, qui reprend votre intervention, qui vraiment
merci de dire beaucoup mieux que moi.
Est-ce qu'on peut rêver ou imaginer d'une culture sans subvention? Une culture qui ne soit pas une culture subventionnée, donc rentière.
Je ne suis pas... En tout cas, pour Grasset, je vais parler pour Grasset. Grasset n'était pas subventionné en réalité. Hein. Il ne recevait pas de subvention. On était là dans une. On voit que. Comment ?
Il y a une économie du livre qui est subventionnée avec le prix du livre, avec les différentes attributions, les différentes commandes, etc.
Le secteur du livre n'est pas subventionné de la même façon que le cinéma. Là, il y a une entreprise qui visiblement connaissait un déclin, connaissait une mauvaise gestion. Ça, j'ai pu le constater dans les chiffres, et un actionnaire qui a mis fin à cette spirale. Il faut revenir à l'origine de tout ça, c'est le fait que Olivier Nora, pour des raisons, alors là pour le coup très germano-pratine, très lié à son milieu, refuse ou met des bâtons dans les roues à Boulalem Sansal pour ne pas publier ou pour ne pas publier le livre le livre Légende qui paraîtra chez Grasset. Et donc, c'est sa direction à lui qui était complètement catastrophée par ce geste. Ce fait du prince commercialement inexplicable. Et c'est la raison de sa chute. Donc, il faut remettre en fait les choses un petit peu à l'endroit. C'est avec cet acte-là que Vincent Bolloré s'est intéressé en réalité à l'économie de Grasset. Je rappelle que Grasset, dans l'univers de Vincent Bolloré, c'est quand même une petite entreprise de 30 salariés dans un groupe qui en compte 175 000. Donc, il n'était pas le nez dans les comptes de Grasset tous les jours. Et il faut reconnaître que, et c'est tout, et c'est, là, c'est pour ça que le parallèle avec Canal+ est assez intéressant, c'est qu'il laissait pendant 3 ans une liberté incroyable. Je veux dire, Olivier Nora a pu publier des livres de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui ont... il a pu le publier et il y a eu très peu de ventes. Là, tout de suite, je ne pourrais pas exactement vous dire le nombre, mais c'est très peu. Il y a eu comme ça des livres anti-Bolloré publiés chez Grasset. Donc, non, il n'avait pas le, enfin, il n'était pas sur le dos de
Pierre Nora.
D'Olivier Nora. Pardon. Pierre, c'est le père, qui a été lui aussi directeur général de Hachette dans les années 70.
Pascal Ménadier, merci. Une fois plus, votre enquête en plusieurs volets sur Grasset, j'espère qu'il y en aura d'autres, voilà, parce que ça continue à soubresauter. J'espère surtout que vous allez vous lancer dans une enquête Canal+ Cinéma sur le même modèle, avec la révélation de ce que les gens ont perçu, de ce qu'ils gagnent vraiment et de tout ce qu'ils ont à perdre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour parler du milieu de la culture et longue vie au Journal du Dimanche.
Merci. Merci beaucoup. Merci.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.